peut-être un favori pour la victoire d'étape. Lâchez Laurent Belay.
Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Je regarde bien Alex Zoule.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir tout le monde, je le dis doucement pour ne pas réveiller trop fort les personnes qui sont endormies cet après-midi, qui ne sont toujours pas réveillées. Bienvenue sur les commissaires de course hein, ce 9 juillet 2019 pour parler de l'étape Reims-Nancy. Avec moi Charles, bonsoir Charles.
Salut Ben, bonsoir à tous.
Également Greg, bonsoir Greg.
Bonsoir tout le monde.
Et enfin Max, bonsoir Max.
Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous.
Alors avant de parler de l'étape du jour, cette étape qui fut longue pour tout le monde, restez jusqu'à la fin pour ceux qui aiment bien les pronostics, petite évolution sur les pronostics qu'on fait, sur lesquels vous pourrez participer, et je peux même dire que vous participez même déjà. Je vous expliquerai tout ça en fin d'émission. Donc, une étape qui a été longuette parce qu'il y a eu la première étape qui était un peu comme ça, mais vu que c'était le début du tour, on était encore vaillant, mais là, on a regardé voir Bacart, Alfredo et Char se disputer, pas grand-chose, le sprint intermédiaire, le pauvre point de la côte qu'il y avait, avant que sur le final, Calmejan tente, plus pour se rassurer que pour autre chose d'ailleurs, avant que Elia Viviani remporte le sprint devant Alexander Kristoff et Caleb Ewan. Peter Sagan échoue au pied du podium. Quant à Groenewegen, il manque de peu de se faire battre par son équipier Tönnissen. Greg, c'est ce qu'on appelle une étape sieste.
C'est ça, c'est les étapes, enfin, surtout maintenant qu'elles sont diffusées en intégralité. Alors, même si d'un côté on est content parce qu'on voit plus de vélos, et ben, c'est des étapes quand même où on a tendance à s'endormir, à un peu s'ennuyer, d'autant plus que, alors là, c'était encore plus flagrant, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune bagarre pour l'échapper. C'est-à-dire que les trois sont partis derrière rideau absolument au bout de 15-20 secondes. Ce qui est quand même la tendance depuis peut-être 2 ans, peut-être 3, c'est-à-dire que sur les étapes comme cela, ben, il n'y a plus les baroudeurs, les roules toujours qui partaient avant, qui offraient un minimum de suspense et d'animation. Maintenant, il y a de moins en moins de courageux hein, sur ce type d'étape-là.
Et Max, en plus, pour couronner le tout sur cette longue étape, le vent était en grande partie défavorable. Là, toutes les conditions étaient réunies pour une très longue étape qui s'est finie assez tard, d'ailleurs.
Oui.
C'est habituel, surtout. Enfin, il y a toujours 2-3 étapes comme ça.
Hein. Je l'ai prise en cours de route. J'avoue avoir été surpris par le kilométrage qu'il restait encore à parcourir à ce moment-là. On s'y attendait. On nous avait un peu vendu une possibilité de bordure. Mais bon, on sait que quand même, c'est quelque chose, une configuration qui est quand même assez rare. Il faut vraiment que tout s'aligne pour que ça se passe bien. On n'a pas eu cette possibilité aujourd'hui. Voilà, on s'attendait un peu à ce que ça se passe comme ça. On l'avait déjà dit hier. Heureusement, il y avait cette petite côte à la fin qui laissait planer une petite incertitude quant aux possibilités, éventuellement, non pas forcément de tenter une attaque, mais de serrer un peu la vis et de modifier la hiérarchie des sprinteurs finalement à l'arrivée. Je pense que ça a été quand même un peu le cas. J'imagine que quelqu'un comme Groenewegen a été peut-être un peu handicapé par le rythme qui a été produit sur la côte de Mâron.
Il était dans les 10 derniers au sommet.
Voilà, et du coup, il ne reste plus qu'à ce moment-là 13 km pour bien pouvoir se replacer. Il termine 5e du sprint, comme tu l'as dit, Tönnissen n'était pas très loin de lui griller la politesse. Bon, ça, ou peut-être la chute aussi sur le contre-la-montre par équipe, je ne sais pas, mais il n'était pas au top. Viviani, par contre, placé idéalement par son équipe. Comme souvent dans ces cas-là, c'est vrai qu'il est très difficile à battre quand il lance son sprint à 200 mètres. bien lancé par son train. En général, c'est difficile de le remonter. En plus, Christophe a été un peu bousculé par Richez, il n'a pas eu de chance. Donc là, c'était du coup humain pour Quick-Step, encore une fois, qui égalise avec la Lotto Jumbo. Donc on est à 2 victoires partout.
Charles, le final d'étape des très grandes routes larges. Très rapide, ligne droite, pas technique, tout était fait pour qu'il y ait un sprint malgré cette petite bosse, et au final on a eu quand même un sprint assez propre.
Ouais, un sprint propre pour finir une étape où on s'est clairement fait chier, enfin, je le dis pas dans... enfin c'était une purge quoi, enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas grave, hein, il en faut des étapes comme ça, mais bah, c'était vraiment nul quoi, bon. Bah, vivement demain, du coup, c'est la seule chose que j'ai à dire, je crois.
Ouais. Alors, pour le sprint, quand même, Elia Viviani l'emporte, bien amené par le maillot jaune himself. Elia Viviani, du coup, il reprend plus de 20 points sur Peter Sagan. Est-ce que, Max, tu penses que l'Italien, et tout comme d'autres, peuvent disputer le maillot à Peter Sagan, où c'est déjà plus ou moins déjà joué? On rappelle que Peter Sagan a 23 points d'avance sur Viviani, ouais, mais ouais, déjà 29 sur Matthews, et après les autres sont à plus de ouais, 30 points, hein, 39 points pour Cole Brady.
À la suite de Viviani, c'est assez serré, effectivement. Ce qu'on peut voir, moi je me base sur ce qu'il a dit tout à l'heure en interview, après tout, hein, je ne pense pas qu'il ait raison non plus de faire trop d'esbrouf là-dessus. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses objectifs ensuite pour la suite, lui il dit dans un premier temps les étapes, et il verra si en jouant les sprints intermédiaires et de cette manière-là, s'il reste positionné pour le maillot vert, il va tenter de le disputer à Sagan. Pour cela, il faudra quand même qu'il s'accroche et qu'il le termine. Alors, je ne sais pas si au départ c'était prévu. Il n'a pas fini le Giro. Donc, on va voir. Ça va être difficile. Après, je dirais que c'est peut-être plus ouvert qu'on le pensait au départ. Hein, on est loin d'avoir un Sagan impérial. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Tu voulais intervenir?
Non, juste redites-moi si mon son est bon, parce que Baptiste me signalait que j'étais d'accord, assez faible, donc Baptiste, tu peux me redire si c'est OK.
Donc, ben, pendant que Baptiste répond, c'est mieux, oui. Ben justement, Charles, Sagan semble moins impérial, comme le dit Max. Cependant, j'ai l'impression que si on cumule, bon, pas les arrivées puisque tout le monde se bat pour la victoire, mais les sprints intermédiaires, il n'y en a pas beaucoup qui, déjà, en fait, dès la première étape, jouent le classement du maillot vert.
Bah ouais, c'est vrai, mais après, est-ce qu'on peut les blâmer quand on voit les numéros qu'est capable de faire Peter Sagan? Je pense que demain, il va tenter de prendre l'échappée pour faire le sprint intermédiaire. Il aura de nombreuses opportunités sur des terrains où les autres ne sont absolument pas capables de briller. Il y a peut-être Michael Matthews, mais Michael Matthews, en puissance pure sur un sprint, il a énormément perdu. Donc, il perdra énormément de points, je pense, par rapport à Sagan. Donc, ouais, non, il n'y aura pas de match, à mon avis.
Alors, Baptiste dit qu'il y a quand même un peu de monde qui fait les sprints intermédiaires. On a connu pire. Je parlais surtout pas pour un début de Tour de France. Après, c'est vrai que généralement, on voyait de moins en moins de sprinters s'y mêler. Mais là, ouais, je trouve que très vite, il y a personne, quoi. Que dire d'autre, Greg, sur cette étape? C'est compliqué, hein, de trouver des...
C'est compliqué,
chutes.
Ah oui.
Il y a eu des chutes. Il y a eu des chutes.
Oui. Il y a eu quelques chutes, oui, notamment une chute impressionnante de Pierre-Luc Périchon, qui s'est pris un îlot central bien plein fer. Il a fait une belle gamelle.
Allez sur le Twitter du Tour de France, d'ailleurs, si vous voulez regarder.
Voilà, il y a Kurt Nielsen aussi, visiblement, il a fait des radios, il a une fracture à la main, mais il continue, il repart demain. Et surtout, enfin, peut-être que si concernant les Français, Tony Galopin est malheureusement à nouveau tombé. Alors, sans gravité, enfin, au moins apparemment, sans gravité, mais c'est quand même, il est un peu poissard en ce moment, parce que ce n'est pas la première fois, hein, ces dernières semaines, qu'il va au sol.
Il enchaîne, et je dirais même, Greg, que c'est pas ces dernières semaines, c'est ces dernières années où il tombe, j'ai l'impression, souvent.
Ben oui, et enfin, on verra après les conséquences, parce que ça devait être un des principaux soutiens à Bardet pour les prochains jours, et il faut espérer pour Romain Bardet que, voilà, il soit suffisamment en forme pour le soutenir.
Alors Cédric demande qui chez Asia 2R n'est pas encore tombé, mais Romain Bardet. Bardet, oui. Voilà. Nyssen, je crois qu'il n'est pas tombé.
Non, ils ont eu des problèmes mécaniques pour l'instant, mais
Franck, et je crois que c'est. Je crois que c'est tout. Là, le problème mécanique, d'ailleurs, Thibaut Pinot qui est encore crevé, décidément. J'espère qu'il ne va pas faire ça chaque jour parce que, à un moment, ça va poser problème. Mais bon, bon écoutez, on ne va pas parler 36 ans sur une étape où il n'y a rien à dire.
Non. Juste pour.
Une hiérarchie des sprinters qui se crée, mais oui, vas-y, Max.
Tout doucement. Pour terminer, on pourrait dire quand même un autre point positif. On est là à la quatrième étape, on n'a toujours pas eu d'abandon, on n'a pas eu de chute massive ou monstrueuse, aucun leader handicapé par cela, ou peut-être on a eu Fuxang, on a eu un peu peur pour lui, mais finalement, il semblerait qu'il soit dans le coup. Donc, ça, on peut dire que c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est toujours un des principaux risques de la première semaine. Hein, croisons les doigts pour que ça continue, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
Charles, tu avais regardé par rapport aux abandons les plus tardifs ces dernières années?
Ouais, j'ai regardé tout à l'heure pendant l'étape, parce qu'on en discutait entre nous, et j'avais un souvenir de Cherbourg, et c'était bien en 2016, où je crois que le premier abandon, enfin je crois pas, je suis sûr d'ailleurs, parce que j'ai vérifié, c'était lors de la huitième étape, Mikhaïl Morkov qui était le premier à quitter la course, donc espérons qu'on aille... plus loin que ça encore cette année.
Voilà. Oh, record à battre.
Oui. Mais bon, attention parce que là, la montagne arrive vite. Et pour les coureurs qui sont diminués, soit par maladie, soit par blessure, je pense notamment à Cornelissen, dont Baptiste Rappel, qu'il a une fracture à la main, même s'il repart de même, il y a quelques coureurs qui vont commencer à souffrir.
D'ailleurs, dites-nous sur le chat hein, si jamais vous avez souvenir d'édition où c'est allé plus loin. Moi, j'ai pas remonté avant 2016, donc c'est possible qu'il y ait eu.
Ouais, après, souvent, je me rappelle dans les années 90, quand je suivais, il y avait souvent une chute ou deux dès le départ. Et je pense notamment à Bormann, qui était spécialiste de tomber dans les trois premières étapes et d'abandonner. Donc, il y a Zoulé également. Mais bon, on verra. Mais s'il n'y a rien à dire sur l'étape d'aujourd'hui, Greg, il y a peut-être beaucoup plus à dire sur la première étape bien difficile demain. Avec des ascensions moins dures, mais bien plus longues que l'étape d'Épernay.
Voilà, donc c'est une étape, on pourrait faire quasiment de moyenne montagne, même si elle ne monte pas très haut, hein, à 600 mètres maximum, mais avec à chaque fois quelques pourcentages intéressants autour des côtes, globalement entre 4 et 5 km à 6% environ. Donc ça promet une étape un peu animée, un scénario totalement différent. Ça, peut-être en reparler, en débattre le sujet. C'est-à-dire, quel scénario pour cette étape? Là, on peut espérer, là, pour les échapper, par contre, on peut espérer une belle bagarre et avoir peut-être quelques beaux noms dans l'échappée, car il y a l'enjeu du maillot à poids, il y a l'enjeu aussi du sprint qui sera au kilomètre 71, et bien sûr, il y aura l'enjeu de la victoire d'étape. Donc, je pense, voilà, le scénario pour l'étape de demain, il est assez difficile à lire, il est assez intéressant.
Charles, l'étape de demain, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Sprint réduit entre favoris ou plus sûrement une échappée, mais dans ce cas, une échappée très fournie ou réduite?
Ouais, Greg l'a dit, c'est le genre d'étape que moi j'aime beaucoup parce que c'est difficile à lire, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, tu les as dit. Soit un groupe de favoris entre 30 et 50, disons, qui joue la gagne, mais moi je privilégierais pas trop ça, sachant qu'il y a l'étape de la planche des belles filles jeudi. Je miserais plus sur un gros groupe d'échappés, peut-être entre 20 et 30 mecs, des mecs costauds, des types comme Charman, Matthews, je pense aussi à Sagan, ne serait-ce que par rapport au sprint intermédiaire, pourquoi pas à la Philippe aussi. Et si je pense à des mecs un peu costauds, c'est aussi parce qu'en fait, demain, ceux qui seront pas devant devront rouler dans le peloton. Et si par exemple Alaphilippe est devant, si Matthews est devant, si Sagan est devant, en fait, ça veut dire que leurs équipiers n'auront pas de travail à faire, ce qui pourrait plutôt être une bonne nouvelle, notamment encore une fois dans l'optique de la planche des belles filles qui va suivre. Donc je vois bien un gros groupe de favoris, enfin de favoris non, mais de mecs costauds type...
De favoris de l'étape.
Voilà, des Charman, des Alaphilippe, etc. Enfin des punchers, quoi, entre guillemets.
Surtout Max que l'échappée de costaud pourrait être favorisée par le début d'étape. Alors, si on voit que ce n'est qu'au 44e kilomètre que le premier Grand Prix de la Montagne est situé, côte de troisième catégorie, les coureurs, dès le 8e kilomètre, vont avoir affaire avec le col de Saal, pas répertorié, mais qui semble quand même être une difficulté.
pas très violent, mais ça permettra déjà effectivement de donner une petite occasion pour ceux qui veulent tenter d'échapper. Et sinon, au pire, on arrive après sur la côte de Grenelbourg. 3 km à 5%, c'est déjà aussi pas mal. Non, je trouve que cette étape est non seulement bien dessinée, mais aussi bien placée dans le calendrier et l'ensemble du tour. Hein. Comme vous le dites, normalement, elle devrait donner l'occasion à une échappée, qu'on espère fournie, hein, plus que celle en tout cas que l'on voit sur les étapes de plat, hein, pour qu'on ait un match entre l'échappée et le peloton. Il ne faudrait pas non plus que le peloton les laisse partir et ne joue pas du tout la victoire d'étape. Ce serait un peu triste, mais bon, ça dépend de beaucoup de choses.
Alors, dans ce cas, dans le peloton, quelles équipes verrais-tu pour rouler? Notamment si c'est un gros groupe d'échappés.
Il y a une équipe qui roulera, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Mais qui?
À un moment ou à l'autre, ce sera Ineos, ne serait-ce que pour entretenir leurs habitudes. Non, ils rouleront pour éviter que quelqu'un prenne trop d'avance. S'il y a, on va dire, un grimpeur correct dans le groupe devant qui peut tenir, vous pourrez être sûr que Ineos maintiendra un écart raisonnable, hein, qui ne dépassera pas les 5 minutes, on va dire, quelque chose comme ça. Tout dépend, hein, bien sûr, de qui aura devant, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 noms qui reviennent bien. Comme vous, je vois bien des Sarman ou quelqu'un comme Jack Egg, De Marquis, De Gendt, tenter l'échappée demain. Bon, a priori, ils ne sont pas des gens trop dangereux pour le classement général. Maintenant, si dedans se glisse un Julian Alaphilippe, parce que, après tout... c'est pas quelqu'un qui normalement doit défendre sa place. Là, je suis sûr que Ineos roulera, ne serait-ce que pour maintenir un écart raisonnable.
Charles, d'ailleurs,
c'est intéressant. Est-ce qu'à la Philippe, on le laisserait partir? Ça, c'est une vraie question. Qu'on lui laisserait partir dans une échappée de 10-15 coureurs qui pourraient se former devant?
Ou même avant Hart, hein. Je suis pas sûr qu'on le laisse partir alors qu'il a 20 secondes de retard.
C'est la question, parce que la Philippe, bon, on l'a vu pouvoir faire des numéros en montagne, mais jamais dans une optique de classement général. La question, c'est, pour 10-15 coureurs, c'est facile à filtrer, mais s'il y a 40 coureurs à l'avant, et notamment qu'il a des échappés... Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, Charles, De Koenig, ils ont tout intérêt à mettre le... Bon, pas masse, mais un Alaphilippe dans l'échappée... Parce qu'ils n'ont pas l'équipe pour rouler dans l'école, même la moyenne montagne.
Ouais, mais c'est un peu le cas pour toutes les équipes. Enfin, vous parliez d'Alaphilippe, même de Wout van Aert. Enfin, ces coureurs-là, ils représentent absolument aucun danger, au classement général. Alaphilippe, on peut lui laisser 20 minutes d'avance demain soir, il ne gagnera pas pour autant le Tour de France.
20 minutes,
enfin, 20 minutes, je ne prends pas le risque, et à mon avis, Ineos non plus.
moi, je pense que Ineos, il serait prêt à prendre le risque, parce qu'un Alaphilippe demain soir avec 20 minutes d'avance au général, il ne gagne pas le Tour de France, c'est une certitude. Pareil pour...
Alors je me désolidariser
si vous voulez, mais on a vu Alaphilippe plusieurs fois dans une position où il défendait un maillot, que ce soit sur Paris-Nice ou sur deux autres épreuves, et en montagne, c'est très compliqué, donc enfin, il n'y a pas de risque. 20 minutes pour Alaphilippe, moi je pense que c'est pas suffisant, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Ce que je voulais dire, que je trouve intéressant aussi, c'est que les côtes sont pas très pentues, que ce soit le Haut-Königsbourg, les Trois Épis ou les Cinq Châteaux, en fait, on dépasse pas les 5-6%, donc en échappée, ça peut convenir aussi bien à des grimpeurs qu'à des mecs un peu plus puncher, disons type flandrien, genre Van Avermaet, etc., qui en échappée se feront pas forcément sortir de la roue par des mecs qui grimpent mieux qu'eux. Donc c'est aussi pour ça que je vois beaucoup de monde dans l'échappée, parce que la victoire peut se convenir à pas mal de monde, je trouve.
Tout à fait. Mais il y a une autre bagarre qui va avoir lieu sur cette étape, c'est Greg, que les premiers, pas gros, mais il y a pas mal de points pour le classement de la montagne qui vont se disputer, ce qui pourrait rajouter des candidats à l'échappée.
Effectivement, d'autant plus que si on regarde le classement d'étape du jour, Tim Wellens, eh bien, il est fini à 6 minutes, donc il s'est économisé, donc on peut déjà, je pense, le cocher pour demain. Hein, il est parce que c'est lui, il a, je crois, quelques points d'avance sur Meurice. Donc je pense qu'on va déjà regarder que Velens, Meurice et Van Avermaet eh bien, seront déjà dans l'échappée. Je pense que ces noms-là, on peut les cocher. Il y en aura d'autres, hein, mais ça va être, c'est vrai, tu as raison, hein, le premier objectif de plusieurs coureurs. Et ceux enfin, qui sont surpris seront demain, dès le départ, hein, sur la première ligne, pour être dans la bonne échappée.
Hormis ça, on a parlé de Peter Sagan, le sprint est à 71 km de l'arrivée, mais cependant, Max, il y a une cote de 3 km à 5% avant, mais 3 km à 5%, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la cote qu'il y avait à 15 km de l'arrivée. Bon, il y a un petit col au départ, mais bon, c'est pas non plus. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir d'autres sprinteurs, d'autres personnes intéressées pour le classement du maillot vert qui pourraient aller dans l'échappée? Bon, on pense à Matthews, mais par exemple, un Colbrelli ou autre, des gars qui savent passer les bosses. Est-ce que tu penses que ça peut être également un point d'intérêt de l'étape?
En tout cas, ça en discute aussi sur le chat, là, ce que j'ai vu. C'est vrai que pour certains, ça peut être une bonne occasion. C'est pas cette côte-là qui va leur faire peur à la plupart des sprinteurs. Je voyais là sur le live, on parlait même, pourquoi pas Viviani tenter l'échappée pour faire ce sprint et se relever juste après, un peu comme il a déjà fait, je crois, lors d'une course par étape, je crois, en début d'année. Il avait tenté le coup. Ou, un peu comme Van Avermaet avait fait sur la première étape pour prendre le maillot de la montagne. Ça peut donner des idées. Je pense que c'est un peu Sagan qui va donner un peu la mesure par rapport à ça. Ou si un autre sprinter décide de s'y mettre et de se lancer dans l'échappée, à ce moment-là, on pourra avoir du mouvement et pourra pas effectivement avoir une grosse échappée se former. Ou alors, c'est le peloton qui roule pour les justement sprinteurs piégés. Et on aura à ce moment-là plutôt une bagarre avec 40-50 km, on aura du mal à avoir une échappée se dégager. Je pense que la lutte pour le maillot vert va pas mal déterminer finalement ce qui risque de se passer en début de cette étape, avant qu'on passe à la deuxième phase en fait.
Ouais, c'est possible, mais il y a également d'autres coureurs qui peuvent être intéressés par cette victoire, Charles. Ce sont les grands noms, entre guillemets, qui ont été largués au général. Simon Yates, Zakarin, peut-être même Denis. C'est
Ah.
des gars qu'on ne peut pas oublier.
Je pensais à ça effectivement, mais j'en reviens un peu à ce que j'expliquais tout à l'heure. Les pourcentages sont pas très élevés. Donc pour Denis, pourquoi pas à la limite, mais pour Simon Yates ou Zakarin, en fait, je vois pas vraiment où est-ce qu'ils auront l'opportunité de faire la différence dans le final demain. Moi, un Simon Yates, tu vois, ou un Zakarin, je les vois plus jeudi à la planche des belles filles tenter de prendre l'échappée pour résister dans le final.
Oui, il faut surtout pas oublier que la première grosse explication entre leaders arrive au lendemain de cette étape, ce qui va sans doute bloquer la course des leaders, mais pas de tous les autres.
C'est ça.
Messieurs, avant qu'on passe au pronostic, mais un petit avant, vous voyez une échappée entre combien et combien de coureurs demain? Greg, par exemple, toi tu vois combien de coureurs dans l'échappée environ?
Ouais, une douzaine de coureurs, allez.
Ouais, Charles?
Ouais, j'ai dit entre 20 et 30 tout à l'heure, mais plus proche de 20 quand même, je pense.
Max?
Oui, moi j'espère, on va dire, entre 15 et 20. Voilà.
Moi, je vois une trentaine de coureurs. Ouais, je vois large.
Et là, demain, il y a un mec qui sort et on a tous la
Non,
tête.
c'est pas possible.
Non, je
Ce
pense
serait
pas non plus.
incroyable. Enfin, après, si un mec sort, ça veut dire qu'on va avoir de la bagarre dans les derniers cols.
Ça, c'est
Mais
vrai
bon.
aussi.
Bon, ça veut dire qu'on va se faire chier pendant les
Je
cols.
vois bien quand même Astana tenter de glisser un peu sur les deux derniers cols, juste comme ça pour tester. C'est une équipe qui a l'habitude de le faire. Les deux cols qui suivent, Trois Épis et Cinq Châteaux, se succèdent parfaitement. Ils ne sont pas super durs, mais c'est quand même du 7% en moyenne, à peu près. Donc, à voir, ne serait-ce que pour voir à combien ils se retrouvent devant au sommet de la dernière difficulté, ça peut peut-être. Voilà, juste permettre à certaines équipes de se jauger par rapport aux autres.
Ok,
Mais
bon,
on n'aura pas
oui.
les plus grosses batailles, ça je suis d'accord avec vous.
Alors, maintenant on va passer au pronostic puisque l'heure tourne. Donc aujourd'hui, messieurs, chers commissaires et chers auditeurs, le double pronostic, puisqu'on fait des doubles pronostics sur ce Tour de France, ça sera le vainqueur de l'étape, bien sûr, mais également qui portera le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape. Pendant que mes collègues réfléchissent, donc je vais vous parler de ce que je mets en place pour les pronostics. Ben c'est simple, en fait. Je suis retourné cet après-midi, puisqu'il y avait le temps, sur les lives des précédentes étapes pour voir ce que vous aviez marqué, vous, sur le live, mais également ce qu'on avait dit, nous. Et c'est simple, chaque fois que quelqu'un ajuste, ben, un point, sinon c'est zéro. Donc pour le moment, après ce début de Tour de France, le premier c'est Théo, 2 points, qui avait trouvé la première et la dernière équipe du classement par équipe. Et ensuite, on est quelques-uns avec 1 point. Donc il y a Charles, il y a moi-même pour les commissaires de course. Il y a Antoine Lacassagne qui a 1 point également, G qui a 1 point, tout comme Alexandre Rollet. Donc pour participer, soit vous marquez, oui, Greg, félicitations, tu serais bon au golf. Mais donc, pour participer, soit vous marquez votre pronostic sur le live, dans ce cas, je le lis et je le note, sachant que je ne prends que votre premier pronostic, soit vous le marquerez en commentaire quand la vidéo sera sortie, pour ceux qui écoutent en replay. Et par contre, date limite, le départ de l'étape. Une fois le départ de l'étape passé, c'est terminé, on ne peut plus jouer. Vous avez eu le temps de réfléchir. Je vois Charles qui réfléchit en faisant tourner son stylo. Qui sera le vainqueur de l'étape pour toi ?
Le vainqueur de l'étape, moi, je mise sur Max Charman.
Et qui portera le maillot de meilleur grimpeur ?
Van Avermaet.
Greg.
Alors, en vainqueur de l'étape, je vais donner... j'avais noté. Il est parti où ? Je vais donner De Marquis.
Ouais.
Et en maillot à poids, j'ai dit Tim Wellens.
D'accord. Max ?
Ah, c'est pas facile, je passe après eux. Donc...
Ah, mais t'as le droit de citer là.
Ah, je pourrais dire la même chose. Ah, oui. J'ai presque envie de faire un mix de vos deux réponses. À l'origine, je pensais.
Mais bon, étant donné que t'es à 0 point.
C'est vrai. Alors, je vais prendre un petit risque du coup pour tenter de marquer mon premier point. Je pensais à l'origine aussi à Sarman. Mais pourquoi pas Jack Egg à ce moment-là ? Et pour le maillot, on va dire Tim Wellens.
D'accord. Pour ma part, je vais dire un vainqueur d'étape Barguil. Et maillot à poids, Barguil aussi.
Alors, on vous rappelle que Benjamin, son objectif, c'est d'avoir 0 point à la fin du tour.
J'ai déjà 1 point, monsieur.
Ah merde, bon, tant pis, retourne dans ma tête.
J'avais dit qu'Alaphilippe serait maillot jaune.
Je peux terminer à 0.
Oui, Greg aussi d'ailleurs, il est bien parti.
Voilà,
je suis bien parti, ouais.
Donc voilà, bah écoutez, on va clôturer l'émission sur ce point. Donc si vous écoutez, et sachant que je vais mettre le classement actualisé chaque jour en premier commentaire sous la vidéo quand elle sortira. Donc quand ce...
Oh, les premiers, ça suffira.
Non, de toute façon, écoute, vu comme on est mauvais... Non, c'est bien que tout le monde participe, oui, c'est sympa.
Je plaisantais.
Je vais mettre... donc, dès que cette vidéo-là sort, je mettrai le classement que je vous ai annoncé en début de vidéo.
Antoine a raison sur le chat. Hein. Moi, je suis pour que Benjamin gagne, parce que s'il gagne, ça veut dire qu'on aura un très bon Tour de France des Français.
Ouais. Des chances.
Allez, on y croit. Victoire de Benjamin, 56 points, ça serait
donc,
beau.
On espère la victoire de Benjamin à fond.
Allez, je prends le pronostic. Je vais essayer de parier quasiment côté français. De toute façon, j'ai pas pronostiqué Sagan aujourd'hui. Et pour comme j'ai été remercié, eh bien merci.
De toute façon, on est nul en prono, donc autant se faire plaisir à un moment.
Exactement.
Voilà, bonne soirée. Et pour les commissaires également, ça sera en commentaire ou sur le chat, pas sur la conversation que nous avons. Comme ça, pas de tricherie possible. Bonne soirée, voilà. Tout le monde. À demain.
À demain, au revoir.
À demain, au revoir.
Au revoir.